voyage.
Le FESMAN sera le verbe officiel.
Au niveau de l'alternance, pour ce qui taraude l'esprit des uns et des autres, c'est comment garder le pouvoir. Il y a une captation du pouvoir.
Remue Ménage.
Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine.
Plan TACAL, marché gré à gré. Comment analyser les positions de l'autorité de régulation des marchés publics et de la commission de régulation de l'énergie au niveau de la Sénélec? Situation politique au Sénégal, manifestation, contre-manifestation, attaque, où va le Sénégal? Pour débattre de ces questions, Remue Ménage reçoit ce dimanche de 10h à 11h Demba Moussa Dembélé, économiste et membre de la société civile, ainsi que Sanou Mbaye, économiste, ancien fonctionnaire à la BAD, auteur du livre « L'Afrique au secours de l'Afrique ». Remue Ménage, c'est ce dimanche avec Alassane Samba Diop.
Dimanche 19 février 2012, merci d'être à l'écoute de Remue Ménage, qui reçoit donc Demba Moussa Dembélé, économiste et membre de la société civile, Sanou Mbaye, économiste et ancien de la Banque africaine de développement, la BAD, et auteur du livre « L'Afrique au secours de l'Afrique ». Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. À Dakar, depuis plus de deux jours, on assiste à des scènes d'émeutes, de guérilla urbaine, Dakarville et dans la banlieue aussi, dans certaines capitales régionales. Monsieur, vous êtes des économistes, on voit ça dans un pays. Quelle analyse peut-on faire d'abord sur le plan économique, Sanou Mbaye?
Mais l'analyse qu'on peut faire sur le plan économique, c'est que bon, le pays est confronté à une situation extrêmement difficile. Je veux dire, en 10 ans, les déficits se sont aggravés, l'endettement a explosé, donc on était en droit d'espérer qu'en matière de campagne électorale, les gens viennent nous dire comment on va conduire cet exercice extrêmement délicat de rogner sur les déficits et en même temps d'avoir un programme de relance, parce que quand même, il y a une situation sociale explosive ici. Donc, on était en droit de demander aux gens de nous faire grâce de ce qui est arrivé en 2000, pas de débat. 2007, pas de débat. Et on est là en 2012 et jusqu'à présent, il n'y a pas de campagne. On est enfermé dans la dynamique, wad ou pas wad, son fils, pas son fils, constitution, anticonstitutionnalité, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'on discute comment on va naviguer ce passage extrêmement délicat de restaurer les équilibres et en même temps de relancer l'économie, avoir un taux de croissance d'au moins 7% pour pouvoir projeter dans les 10 années à venir d'être quand même un pays émergent, un pays. L'Afrique de l'Ouest, le Sénégal peut jouer un rôle extrêmement déterminant compte tenu du secteur classe intérieure et des circonstances qui prévalent dans la sous-région, et on ne va pas rater ce coche-là.
Oui, d'abord Moussa Dembélé, on regarde quand même que les étals sont brûlés, qu'il n'y a pas de travail, pratiquement le commerce est bloqué, et la plupart des Sénégalais, c'est des gagne-peu qui, avec le commerce qu'ils font, arrivent à nourrir les familles. Est-ce que l'économie n'est pas bloquée en ce moment? Avec la violence que l'on voit dans les rues à Dakar.
Merci Alassane. Je salue au passage mon ami frère Sanou. Merci de m'avoir fait retrouver Sanou. J'ai perdu de vue depuis un moment. Sauf bien sûr à travers les journaux et son livre magnifique que j'ai lu avec beaucoup de plaisir.
Merci.
Je salue aussi au passage vos auditrices et auditeurs. Vous voyez, je crois que ce qui se passe aujourd'hui avec les jeunes, le mouvement Yanamar, c'est le symbole d'une jeunesse qui a été sacrifiée. Et cette jeunesse a été sacrifiée parce que le néolibéralisme tropical a détruit les fondements de l'économie de ce pays-là. Aujourd'hui, le président parle d'autosuffisance alimentaire. Or, le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation a dit que la situation alimentaire du Sénégal est préoccupante.
Il s'appelle Olivier de Souterre.
Olivier. La situation est préoccupante et le PAM même a dit qu'il y a quelques 800 000 Sénégalais qui sont dans une situation alimentaire précaire. Donc, ça n'a rien à voir avec la sécurité alimentaire, avec l'autosuffisance alimentaire. Et je crois que c'est la formule qui résume le mieux l'échec du régime de Ablaye Wade, c'est Barça ou Barsac. cette jeunesse qui aujourd'hui trouve comme alternative un voyage incertain par des pirogues et toutes sortes de moyens précaires avec les drames que nous connaissons.
Là, ceux qui ne sont pas partis à Barça, qui ont décidé de rester au Sénégal, de se battre, qui ont leur étal, qui voient chaque, tous les deux jours leur étal brûlé, qui voient leur cantine complètement détruite, comment ils font?
Oui, mais voilà le problème, c'est là où je voulais en arriver. Au lieu, comme l'a dit Sanou, que les candidats posent le problème de la reconstruction de l'économie du pays et de la société, du tissu social, on se focalise sur la constitution. C'est bien, c'est normal. Quand un vieillard de 90 ans veut violer la constitution, je pense que c'est normal que les gens s'y opposent. Et je soutiens cette résistance. Parce que moi, je suis également membre du M23 et je pense que c'est une résistance légitime. Mais même si quelqu'un d'autre prend le pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va proposer? Parce que ce que nous entendons, c'est des généralités. C'est des généralités, on va faire ceci, on va faire cela. Mais il n'y a pas, à mon sens, de programme sérieux qui soit en mesure de nous donner les clés de la reconstruction de l'économie sénégalaise, de remettre les gens au travail, parce que les gens ne travaillent pas. De remettre les gens au travail et surtout de reconstruire le peu de tissu industriel que nous avions et que Ablaye Wade a détruit. Les ICS, les industries alimentaires, aujourd'hui la plupart de ces choses-là ne fonctionnent pas. Regardez l'industrie textile, vous voyez, on n'a que de la friperie aujourd'hui au Sénégal. Près d'un jeune sur deux ne travaille pas. Même les jeunes dont vous parlez qui sont dans les rues de Dakar, c'est un pis-aller. C'est parce que, comme on dit, ils n'ont pas où aller, ils n'ont pas d'alternative. Donc, les candidats devraient, à mon avis, mettre l'accent sur comment reconstruire l'économie de ce pays qui a été détruite.
Oui, mais ça nous, est-ce que les candidats aussi ne sont pas entre le marteau de la carrière qui juge institutionnelle, qui combat pour qu'Ablaye ne participe pas, et la nécessité aussi de présenter au programme aux Sénégalais? Parce que si ils analysent ce qu'ils disent, qu'Ablaye ne doit pas y aller, et qu'ils ont des droits constitutionnels qui sont violés, comme le droit de marcher et de manifester en tant que candidat, il ne peut pas être sur deux fronts.
Oui, mais Alsane,
peut-il être sur le front des programmes et sur le front aussi de la lutte contre la cadette d'Ablaye Wade?
Oui, moi je crois que c'était possible.
Comment?
C'était possible, je veux dire, j'étais partie prenante de Benno Sigui Sénégal, parce que c'était la recherche d'un candidat unitaire. Bon, ça n'a pas abouti, mais être dans ça n'excluait pas d'être sur le terrain.
Comment?
D'être sur le terrain, mais surtout c'était possible pour les appareils qui avaient un parti qui avait des militants, des partis structurés. Deuxièmement, quand il s'agit du M23, là aussi on peut être dans le M23 tout en s'adressant au public. Et là, le fait de ne pas l'avoir fait, c'est extrêmement grave. Parce que ici, la majorité de l'électorat, quand même, c'est les jeunes. Et les deux tiers des jeunes, et interrogez-les, jusqu'à aujourd'hui, hein, les gens ne savent pas. Ne savent pas parce que pour qu'ils puissent choisir leur camp, il aurait fallu qu'ils entendent les discours, qu'ils voient. Mais ce qu'ils voient, c'est souvent des gens qui se prétendent de l'opposition, mais qu'ils ont vu depuis 2000 participer, hein, au gouvernement qu'ils dénoncent aujourd'hui. En fin de compte, le seul parti qui a été un parti d'opposition ici, c'est le Parti Socialiste, qui a fait d'ailleurs son autocritique et qui a fait un plan. C'est regrettable que ce plan ne puisse pas être débattu parce que c'est un plan qui répond aux besoins des Sénégalais. On n'en discute pas et ça, c'est dramatique. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la logique du pouvoir. Sa logique jusqu'à présent a été une politique de main basse sur le foncier, main basse sur la constitution, main basse sur le processus électoral. Mais dans quel but? Moi, c'est ça que je ne peux pas comprendre.
Mais justement, Sanou, est-ce que dans ces conditions de mettre la main basse sur la constitution, sur le foncier, sur la vie des Sénégalais en général, peut permettre d'avoir un espace d'expression pour ces partis politiques? Si aujourd'hui Ibrahima Fall, qui est un candidat, qui a le droit d'aller manifester à la parole de Népas, on lui interdit.
Oui, mais justement, c'est toujours cette politique de chaos.
Comment peut-il présenter un programme où l'espace dans lequel il devait l'exposer, on lui dit tu n'as pas le droit de l'exposer?
Absolument, mais voilà, c'est ça qui montre un monsieur Ouad qui a fait de la ruse son seul instrument politique. On est tout le temps en train de se demander avec ce monsieur-là quelle est la botte secrète qu'il nous réserve. Mais ce n'est pas une manière de mener une politique. Moi, maintenant, je reviens sur les propositions concrètes. Espérons seulement que ce chaos débouche sur une chose qui pourrait être positive pour les Sénégalais, le report de ces élections. On ne peut pas faire des élections dans ces conditions-là.
Ah bon?
Ah oui, moi, je ne vois pas comment on peut faire des élections dans un climat insurrectionnel. C'est pas possible. Et ou alors, les résultats, c'est ce que Ouad cherche pour que dans un climat institutionnel, qu'il puisse faire main basse encore sur les résultats, se déclarer vainqueur, avoir le Conseil constitutionnel approuver cette victoire exactement comme il a approuvé sa candidature et puis se retrouver dans un climat insurrectionnel tel que ce ne serait pas gouvernable. De toute façon, quoi qu'il en soit, moi j'en suis persuadé, Ouad va au mur. Maintenant, après le mur de Ouad, quoi? Et c'est ça que je voudrais qu'on discute. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que pour mener l'exercice extrêmement délicat de réduire les dépenses tout en injectant de la monnaie, il faut... Non, pour ce qui est de la réduction des dépenses, moi je ne me fais pas de soucis. Il y a eu tellement de gaspillage, il y a tellement d'abus dans ce gouvernement, le budget de fonctionnement est tellement énorme qu'on peut faire vraiment des économies sans heurter la population. Et d'un autre côté, je voudrais qu'on apprenne de l'histoire. Hein, pour augmenter nos recettes, qu'est-ce que l'Italie a décidé de faire? Mais on va taxer le Vatican maintenant. Ils espèrent $1 milliard du Vatican. Qu'est-ce que les Grecs ont fait? On va taxer maintenant l'Église orthodoxe. Il faudrait que dans ces pays, je me demande, et je suis quasiment sûr, que ces oligarchies religieuses-là ne payent rien du tout. Hein? Ils ont des terres, ils ont des récoltes, ils ont des maisons qu'on n'a pas finir. Il faudrait, dans la politique de mobilisation des ressources, qu'on taxe ces gens-là. Et ça, ce n'est qu'une proposition.
Mais vous payez des impôts.
Il paye des impôts.
Nous vous demandez qu'il paye des impôts, les Marocains.
Je veux qu'il, non seulement qu'il paye des impôts, hein, qu'il paye des taxes immobilières, et qu'il paye tous les impôts que vous et moi nous payons. Que vous, il n'y a pas de raison, parce qu'on parle beaucoup de
oui, de Moussa Dembélé. Est-ce que c'est possible de demander à des marabouts d'être taxés, où on voit l'image de nos hommes politiques qui vont s'accroupir devant les marabouts pour demander leur bénédiction, même s'ils sont dans une position de pouvoir?
Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur les violations de la loi opérées par Ouad et son ministre de l'Intérieur, M. Ousmane Gom. Vous savez, le président de la Sénat, M. Ndir, a dit dans une lettre adressée à Ibrahim Fall qu'il avait le droit d'aller où il veut dès l'instant qu'il a respecté les procédures normales. Mais Ousmane Gom ignore ce qu'a dit la Sénat. Ousmane Gom viole la loi électorale. Mais de ce point de vue-là, moi je crois qu'Ousmane Gom doit démissionner. Sans compter ce qui s'est passé à la Zavia. Et je pense que donc Ousmane Gom doit démissionner parce qu'il a violé la loi. Et il n'est pas acceptable que des candidats qui briguent le suffrage des Sénégalais, comme le président sortant, qu'on leur lance des grenades et qu'on les violente, comme on l'a fait hier avec Cheikh Bambadié, comme on l'a fait avec Ibrahim Fall et les autres. Je crois que c'est inacceptable. C'est absolument inacceptable. Si ce régime finissant pense que c'est comme ça qu'il va se maintenir, il se fait des illusions. Moi, sur ce plan-là, même si Ouad et son régime essaient de voler les élections, ils vont avoir une insurrection dans ce pays. Et ils finiront mal. Donc il faut qu'ils fassent très attention. Maintenant, pour revenir à ta question, je suis entièrement d'accord avec ça. Alors, vous savez, ces confréries religieuses, mais elles sont au cœur du système de corruption dans ce pays-là. Ce sont des confréries qui ont des milliers et des milliers d'hectares. Ce sont des confréries qui ont tous les privilèges de la part de l'État. Mais l'État tire ses ressources d'où? Si ces confréries qui ont des terres, qui bénéficient de tous les privilèges et qui sont assises sur des milliards, ne payent pas des impôts, comment va faire l'État? L'État va tirer l'argent du Sénégalais moyen parce que les taxes indirectes
constitue l'une des sources principales du budget du Sénégal. Taxes indirectes, la TVA et autres. Mais qui paye ça?
C'est
le consommateur.
Ceux qui incarnent l'État.
C'est le Sénégalais moyen.
Aujourd'hui, ceux qui incarnent l'État et ceux qui veulent incarner l'État.
Ils
demain,
n'osent pas.
Oui. Vont s'agenouiller devant les marabouts et demander à Benedicto penser que ces gens-là sont assez forts pour imposer les taxes aux confréries.
Non, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Aucun d'entre eux, aucun de ces candidats, en tout cas ceux qui ont des chances de gagner, n'oseront le faire. Parce qu'ils vont tous se prosterner devant les marabouts pour demander leur bénédiction.
Le Ndigal ?
Le Ndigal, même s'ils n'ont pas le Ndigal, mais ils vont obéir aux marabouts. C'est ça, c'est le mot qu'il faut utiliser. Comme Ablaye Wade, qui dit partout qu'il est mouride, alors qu'il s'en sert juste pour les élections. Beaucoup de mourides disent qu'il n'est pas sincère. Les Macky Sall et autres, ils cherchent tous la bénédiction des marabouts, que ce soit Touba, Tiwawone ou autre. Donc ils n'oseront jamais, en tout cas ceux qui, pour le moment, ceux qui essaient de briguer le pouvoir et qui ont des chances peut-être de l'avoir, aucun d'entre eux n'osera demander aux marabouts de payer, et encore moins d'humilier leurs privilèges. Donc, malheureusement, on est dans cette situation.
Oui. Sanoumbaye, si on évolue un peu par rapport au débat, je disais tantôt qu'on a vu des scènes d'émeute. Il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé au niveau de la Zaouia. Mais avant cela, les bavures policières qu'on a observées ici au Sénégal, et la cathédrale qui avait reçu des grenades lacrymogènes quand les gens étaient à la recherche de Jean-Paul Diaz, c'était en 2006, et c'était un vendredi saint. La police poursuivait Jean-Paul Diaz donc. Il y a eu la grande mosquée aussi qui a eu son lot de grenades lacrymogènes. La fois dernière, c'était un vendredi encore, à la Zaouia. Et ça a créé une sorte d'émotion chez les fidèles Tidiane, qui demandent aujourd'hui la démission du ministre de l'Intérieur, qui l'avait même extrait à Tuaron quand il est venu donner des explications par rapport à ce qui s'est passé.
Moi, je voudrais qu'on prenne exemple sur l'Angleterre. L'Angleterre a une loi. Aucun membre du gouvernement du cabinet ne peut être franc-maçon. Parce que moi, j'en reviens à ça parce que c'est un agenda franc-maçon. C'est un agenda franc-maçon et de détruire, de s'attaquer à la religion d'une manière systématique. Donc, il faudrait que ce pays commence aussi, parmi les réformes fondamentales, à faire, de regarder cet aspect-là. Quand l'Angleterre peut se permettre d'énoncer une loi, de dire que ni leur magistrat, ni aucun membre du gouvernement ne peut être franc-maçon, il faudrait qu'on commence à regarder cet aspect de la chose-là. Deuxièmement, il faudrait quand même, on a parlé des oligarchies religieuses, hein. Il est temps, parce qu'ils ont, elles ont été tellement absentes là où on les attendait. Les gens ont la nostalgie, hein, tout le monde l'évoque. Donc franchement, il y a une déception profonde. Il est temps de rompre ce cordon. Deuxièmement, parmi les oligarchies, il y a les oligarchies religieuses, mais aussi il y a les oligarchies financières, là où on doit chercher des recettes. Mais il faudra parler à des gens comme Mimran qui ne payent pas. C'est-à-dire, c'est les Mimran, les Bouygues, c'est le secteur privé français qui domine, et par l'agencement de leur financement,
Les Bolloré,
les Mimran, ils ne payent pas. Il faudrait donc revoir toute la taxation et les fiscalités. C'est pas pour Moussa Dembélé, ça nous baille moi quand je travaille ici aux prestations familiales, mais on est écrasé par les impôts. Il faudrait aussi voir comment ramener cette source de financement. Troisièmement, moi, ce qui me réconforte, malgré cette politique de chaos, c'est de voir, franchement, les réserves de talent qu'il y a dans ce pays. Que ce soit au niveau de la diaspora, partout où je vais, que ce soit à Munich, à Genève, à New York, mais je ne rencontre que des gens extrêmement brillants et qui, eux, ne s'enlisent pas dans le faux débat de la constitutionnalité. Tu viens ici, tu regardes les candidats. D'abord, je tiens à lancer ici un appel. Que les Sénégalais là cessent, hein, leur opposition crypto-personnelle au PS et à Tanor. Ils ont fait leur autocritique. Je peux vous dire qu'ils ont le plan le plus adapté. Hein, le plus adapté, ils ont l'expérience et les cadres. Hein. Deuxièmement, ce qui me réconforte de voir qu'en dehors de Paris, mais regardez, j'ai vu Cheikh Bamba, j'ai entendu Cheikh Bamba dire, c'est un garçon remarquable. Hein, Malik Sall, Macky Sall a pu faire une lecture très correcte et lui, il a été sur le terrain, il ne l'a pas abandonné aux autres. Donc, on voit une réserve de talent exceptionnelle, ne parlons pas du grand frère Ibrahima Fall. Donc, vraiment, ce pays, nous avons tous les talents. J'ai fait partie d'une cellule qu'on appelle les cellules des experts du Parti Socialiste, mais il y a une dizaine, vingtaine de personnes là-bas, mais alors, des gens extrêmement brillants qui sont là, qui proposent des politiques, des papiers, d'une densité extraordinaire. Donc, franchement...
Mais pourtant, ça, il ne faut pas oublier quand même que le Parti Socialiste a plongé le Sénégal 40 ans dans cette histoire. Aujourd'hui, le Sénégal aussi est dans une situation qui est due aussi au fait de la gestion des socialistes.
Mais je suis tout à fait d'accord. Mais voilà un parti qui a fait quand même son
autocritique. Il ne faut pas quand même
qui a fait d'abord
si ils n'ont rien fait dans ce pays.
Ah non, il a fait son autocritique. Deuxièmement, ce que les gens perdent de vue quand même, c'est que avec les 20 ans de programme d'assistement structurel, hein, et là, personne ne pouvait être plus critique que moi, et mes critiques, je les véhiculais dans le monde diplomatique. Hein. Personne ne pouvait être plus critique que moi sur le Parti Social. Mais c'était 20 ans d'assistement structurel. Mais quand les libéraux sont venus au pouvoir, mais je peux vous garantir que les finances publiques dont ils ont hérité, c'était un bas de laine, et c'est grâce à ce bas de laine que les libéraux ont mené les politiques qu'ils ont menées, infrastructure, augmentation du salaire, investissement dans l'éducation et dans la santé. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que tout ce qui devait coûter 1 dollar, hein, ils l'ont facturé à 10 dollars. C'est-à-dire, vraiment, les libéraux ont pris ces programmes-là pour en faire des sources de richesse, d'enrichissement personnel. Et 10 des projets qu'ils ont réalisés, les 8 étaient déjà conçus et mené à terme quasiment par le Parti Socialiste. Donc, si vous voulez simplement...
C'est dans le cadre de la continuité de l'État. Hein?
Oui, dans la continuité de l'État, je suis tout à fait d'accord. Mais aussi, il faut accepter que les gens puissent faire leur autocritique, se renouveler. Hein? Il y a eu des départs et il y a eu des retours, des cadres, une structure et un nombre remarquable. Moi, Ousmane Tano Dieng m'a séduit.
Ça nous parlons de ces policiers-là qui aujourd'hui balancent des grenades lacrymogènes dans les lieux de culte. Est-ce que Moussa Dembélé, cette façon de faire démontre un manque de formation? C'est ceux-là qui doivent maintenir l'ordre.
Oui, je pense que la plupart de ces policiers, non seulement manquent de formation, mais également, je crois, sont imbus de cette idéologie de la violence qui est le propre du parti au pouvoir. Quand les policiers voient que le ministre de l'Intérieur viole la loi en empêchant les candidats d'aller où ils veulent, les policiers se disent, étant donné que notre chef viole la loi, nous, on n'a pas de retenue. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que, quand même, un policier, quelle que soit sa confession, il ne peut pas faire la confusion entre un lieu de culte et les autres lieux publics. C'est pas possible. Et la Zavia, c'était un vendredi en plus. C'était un vendredi. Et cette mosquée est très célèbre. Tout le monde la connaît. Donc, même si des manifestants ou un ou deux manifestants ont pu aller se réfugier là-bas. Mais c'est pas possible d'admettre qu'un policier, même il entre pour le chercher, a fortiori, il jetait une grenade. Mais ils ont envoyé des maisons pour trouver des gens dans des cuisines, dans les chambres à coucher, pour les tabasser. Moi, j'ai écouté ce qui a été relaté par vos radios et autres. On a vu à la télévision comment ils se comportent comme dans le Far West. Donc, je crois que c'est à l'image de ce régime. C'est à l'image d'Ablaye Wade, qui est un homme violent, comme l'a dit quelqu'un, du PDS, qui est un parti violent et qui veut coûte que coûte se maintenir au pouvoir. Et c'est pourquoi je dis que Ousmane Ngom, qui est le chef de la police, qui a violé la loi en empêchant des candidats d'aller à la place de l'indépendance, et ensuite en jetant dans la rue des policiers incultes qui vont jeter des grenades dans une zavia, Ousmane Ngom doit rendre le tablier. Il doit démissionner. S'il a encore considérations pour lui-même et pour la loi, il doit partir. Et je pense que... Je voulais rebondir un peu sur ce qu'a dit Sanou à propos du PS et des oligarchies financières. Je crois que le PS, effectivement, passé par le purgatoire depuis 12 ans. Mais à mon avis, Ousmane Tanodien, personnellement, ne représente pas le renouveau de l'UPS. Il y a des hommes remarquables dans l'UPS. Et je crois qu'il y a des patriotes, des gens qui croient vraiment à des idées de gauche. Mais je ne pense pas que Tanor, qui a été à l'origine des départs de Nias et autres, je ne pense pas qu'il représente le renouveau du PS. C'est vrai que j'ai vu Mamadou Loum qui parlait à l'occasion d'un forum, par le Progressive Forum l'autre jour. C'est un type remarquable, qui est ancien Premier ministre, que j'ai connu quand j'étais aux finances. Et je pense qu'avec des gens comme ça, avec toi, c'est vrai que le PS dispose d'experts de très grande valeur. Oui. Mais pour que le PS soit plus crédible, il faudrait renouveler le personnel, toi, au niveau de la direction du PS.
Je ne veux pas qu'on émission soit
politique,
c'est la situation du pays aujourd'hui, parce que c'est une émission qui analyse ce qui se passe. Sanoumbaï, comment interprétez-vous, après tout ce qui s'est passé, le silence du président Blaye Watt par rapport à la situation?
Mais parce que écoutez, franchement, on ne peut pas sous-estimer ce type. Il a d'abord dit qui sera candidat. Les gens ont eu comme mot d'ordre retiré. Il a été candidat. Il a dit que le Conseil constitutionnel va approuver sa candidature. On l'a approuvé. Et il a dit qu'il passera au premier tour. Donc, jusqu'à preuve du contraire, tout ce qu'il a dit, il l'a réalisé. Et ça, il ne peut passer qu'au premier tour qu'en faisant main basse sur les élections. Donc, en fin de compte, il se tait parce qu'il a obtenu le chaos qu'il voudrait. Donc moi, tout ce que je voudrais demander, c'est que, pour une fois, qu'on ait un objectif. Et l'objectif des gens de la rue, parce que ces gosses-là, il faut dire que, confrontés au problème de la désaffection, ils sont retrouvés au même niveau que les jeunes d'Occident, les jeunes de l'Afrique du Nord. C'est-à-dire, ils n'ont que leur révolte, leur rébellion, ils cherchent maintenant un leader pour les rassembler. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est que la seule façon, la seule issue possible, c'est de reporter ces élections, selon moi. Donc, la stratégie doit être tout faire pour que les élections n'aient pas lieu le 26, qu'on puisse les reporter, que pour ces WAD, avec l'appui des forces intérieures, l'appui entre guillemets de la communauté internationale, à partir. Après, on peut reporter les élections sur une certaine période, ce qui permettra aux gens de venir et de discuter avec les gens de leur programme de gouvernement. Parce que s'il y a un électorat mûr, c'est bien l'électorat sénégalais. Ils sont là. Et plus je pose des questions, plus je me rends compte qu'au moins 50% de ces jeunes-là sont encore indécis. Donc, la façon, la meilleure façon de leur permettre de choisir d'une manière tout à fait rationnelle, c'est de reporter et de leur donner la possibilité d'entendre les candidats. Parce que contrairement à ce que vous dites, moi je trouve que Ousmane Tanor, justement, c'est lui qui a renouvelé ce parti. Hein? Et c'est lui qui a ramené...
Sanoumbaï, c'est mon émission, c'est parce que le parti socialiste, c'est sur le pays, c'est l'analyse du pays. De Moussa Dembélé, aujourd'hui, la médiation de la CEDEAO, est-ce qu'elle peut entrer dans ce champ de voir un peu quelles sont les possibilités par rapport au Sénégal, de discuter avec tous les leaders et tous les candidats pour voir, comme ça nous l'a dit, une possibilité de report des élections? C'est une possibilité que ça nous a évoqué dans cette émission.
Bon, c'est une possibilité, effectivement, et je crois qu'il y a certains candidats qui l'ont déjà dit, qu'ils veulent que les élections soient reportées.
Don Cheikh Bamba Dieye.
Oui, Don Cheikh Bamba Dieye, entre autres. Je pense que la médiation de la CEDEAO, pour qu'elle soit couronnée de succès, il faudrait que Obasanjo, qui connaît très bien Ablaye Wade, arrive à le ramener sur terre, à lui faire perdre ses dernières illusions, qu'il ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était, à violer la Constitution. Il faut qu'il lui dise la vérité. Si Obasanjo lui dit la vérité et qu'il ouvre les yeux, je pense qu'on pourra reporter les élections, avoir des élections normales, permettre au peuple sénégalais de choisir en toute tranquillité. Mais je ne suis pas sûr qu'après le forcing, ce que certains appellent le coup d'État constitutionnel, après ce que nous sommes en train de vivre, la violation de la Constitution, de la loi électorale, par le ministre de l'Intérieur et son chef, je me demande si Ablaye Wade va écouter Obasanjo. Parce que c'est la seule possibilité pour qu'il y ait un report des élections et pour qu'elles puissent se passer dans de bonnes conditions. C'est qu'il renonce à sa candidature. Ce que demande la majorité du peuple sénégalais. Parce que c'est contre la Constitution. Lui-même, il l'avait dit. Il l'a répété, il l'a dit. Donc, pour moi, c'est la seule condition. Qu'il écoute Obasanjo et que Obasanjo lui dise qu'à près de 90 ans, tu ne peux pas prétendre gouverner ce pays. Ça suffit.
Mais Sanou, est-ce que le rapport des élections dont vous parlez sera entendu par les partis politiques? Parce que certains d'entre eux ont déjà engagé beaucoup de dépenses, sont sur le terrain en train de faire campagne, un peu partout, même si d'autres sont à Dakar en train aussi de poursuivre la lutte avec le 23. Est-ce que votre appel peut être entendu ou est-ce que ça ne peut pas être fatal à certains partis qui ont déjà engagé beaucoup de finances dans ce
pays? Mais oui, mais justement, quand on mène un combat, on s'en donne les moyens. Ceux qui ne peuvent pas se donner les moyens, ceux qui ne méritent pas de continuer. Et puis, franchement, il faudrait qu'on cesse de prendre nos désirs pour des réalités. Obasanjo, vous ne vous souvenez pas, quand Watt a pris le pouvoir, il a tenu le premier à humilier, c'était Obasanjo parce qu'il était dans l'opposition, Obasanjo ne l'avait pas reçu. Et c'est là où on s'est dit, oh, doucement, quoi, le Sénégal par rapport au Nigeria. Watt, il faut lire le caractère de Watt. Watt ne croit qu'au rapport de force et Watt n'a pas d'état d'âme. Hein? Si le peuple le force à sortir, si le force le porte à montrer que là, où il part, où il sera défait, il partira. Il partira. Il ne croit qu'au rapport de force. Rappelez-vous le 23 juin. Il ne croit qu'au rapport de force. Il appartient, ne sera pas du tout un médiateur de l'extérieur, ni personne sera au peuple sénégalais. Et jusqu'à présent, toutes nos actions ont été désordonnées. Pour une fois, focalisons sur un point, les élections ne doivent pas avoir lieu le 26. C'était facile d'organiser les élections des militaires. Ils sont quoi, 20 et quelques mille, 23 mille, hein, des militaires, des soldats. Bon, il y en a quoi, 800 qui ont voté hier, ou même pas moins. Bon, donc c'est pas à ce niveau que se passe le test. Le niveau auquel où se passera le test, ce sera le 26. Il ne faudra pas qu'il y ait des élections. Il faut qu'on reporte ces élections. Et ce report doit servir à quoi, hein, à s'adresser d'une manière claire au peuple pour que, justement, puisse choisir d'une manière tout à fait indiqué, éclairé.
Oui, ça nous parle de stratégie tout à l'heure. Quand on regarde bien l'opposition et M23, est-ce que vous pensez qu'ils ont une stratégie claire? On a l'impression qu'il y a que les gens ne s'entendent pas au sein de M23 ni au sein de l'opposition en tant que tel par rapport à ce qu'ils doivent faire. Certains tirent à gauche, d'autres à droite.
Non, mais vous savez, le M23 n'est pas un parti politique.
Le M23
regroupe la société civile.
Les leaders des partis politiques
sont. Oui, les leaders des partis politiques, ils ont leur stratégie. Parce que les leaders des partis politiques s'étaient préparés des années auparavant pour être candidat. Donc le M23 est né le 23 juin, mais les leaders avaient déjà, des années auparavant, préparé leur campagne. Donc ils se sont greffés à ce mouvement, ils se sont dit, vous avez raison, Val ne doit pas être candidat, nous sommes partie prenante de ce mouvement, mais une fois que la campagne a démarré, ils ont dit, nous avons notre programme à dérouler. Moi, je pense, et je l'ai dit à mes amis du M23, il faut taper dans les deux directions. Moi, je pense que le M23, c'est-à-dire la société civile, pouvait continuer à faire cette campagne contre la candidature de Vardes. Et les leaders pouvaient aussi, dans leur campagne, contribuer à cela. Parce qu'au fond, ils ont droit aux médias, publics et privés, mais ils ont la parole, donc ils pouvaient continuer à revendiquer que Wad ne peut pas être candidat. Par conséquent, certains d'entre eux l'ont fait, comme les Macky et après Moussa Fagnès, et les Amsa Dousso Sidibé et autres, sont partis disant, nous continuons à faire la campagne, Wad ne doit pas être candidat, mais dans le même temps, nous sommes solidaires de tout ce qui se passe au sein du M23. D'autres sont restés à Dakar, mais je pense qu'il n'y a pas de confusion, c'est-à-dire qu'ils ont le même objectif, c'est que Wad de toute façon, doit partir, para ou bien. Et c'est légitime, parce que tout simplement, il ne peut pas, on ne peut pas accepter qu'il viole la Constitution, que lui-même avait proposé en 2001 au peuple sénégalais. C'est lui qui le dit. C'est moi qui ai écrit la Constitution. Vous
rendez-vous. Mais du moment que le Conseil constitutionnel, qui est la seule instance à décider dans ce pays, même si les gens ont des appréhensions de ce qu'ils pensent du Conseil, le Conseil a donné un verdict.
Oui, le Conseil a donné un verdict. Vous savez, on se réfère à la situation ivoirienne, où le Conseil avait dit, c'est Gbagbo qui a gagné. Une fois qu'on a dit que c'est Ouattara, c'est le même qui a pris le serment de Ouattara. Donc, vous savez, et tout ce que Wade a fait quelques semaines avant la décision du Conseil, l'augmentation du salaire du président du Conseil constitutionnel, vous savez,
et des autres chefs de juridiction.
Et des autres chefs de juridiction. Et quand il a dit, il y a le règlement qui, c'est Dieu seulement qui pourra m'empêcher d'être candidat. Mais c'était un message lancé à Cheikh Tidiane Diakhaté. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'être candidat. Parce que ils ont à l'esprit ce qui s'est passé avec Metsi. Quelqu'un qui était dans l'opposition, dont on accuse d'être le commanditaire du meurtre de Metsi, et qui aujourd'hui a tous les leviers du pouvoir, vous savez, c'est très facile de tuer quelqu'un et de maquiller cela. Donc ils avaient tout ça en tête. Et moi, je pense que la corruption, la peur, ont été deux éléments décisifs dans la décision du Conseil constitutionnel. Je l'ai écrit dans un article, et je le répète ici. Je crois que c'est la peur et la corruption. Ils n'ont pas dit le droit, parce que la quasi-totalité des constitutionnels sénégalais ont dit que non, il ne peut pas. Même si madame ici, quand il est venu assister à leur séminaire, soi-disant ici, il a dit. Alors, quand même, il ne faut pas nous parler du Conseil constitutionnel. Moi, je ne crois pas à cette décision comme conforme à la constitution du Sénégal.
Évoluer un peu dans le débat, il y a un autre point qu'on doit aborder, c'est l'histoire du plan Takal, le marché de gré à gré. L'État du Sénégal, par décret numéro 2012-01 du 2 janvier 2012, a modifié l'article 3 du Code des marchés publics pour soustraire des dispositions de ce marché, les marchés acquis de combustibles, des opérations de la maintenance, d'installations destinées à produire de l'énergie électrique. L'ARMP a dit que c'est elle seule qui a la prérogative de proposer et d'aller chercher ces genres de marchés, c'est sa prérogative, que l'État a violé la loi. Sanou, comment comprenez-vous aujourd'hui cette histoire de marché de gré à gré où le comité de régulation de l'énergie, de la réforme, la situation de la relance du secteur de l'énergie, qui a la CNLEC, qui dit qu'ils sont du côté de l'État, passé urgence à débloquer l'argent pour acheter le combustible et de la matière première pour la CNLEC.
Oui, mais tu sais, ça projette de la logique d'accumulation de richesses en Afrique subsaharienne, pour le moment, dans ces pays, y compris le Sénégal. Et si vous voyez bien, on vous dit qu'en fait, tout ce qui a été réalisé pour un coût qui coûtait 1, maintenant on l'a multiplié par 10. Et ça, vous ne pouvez pas le faire dans le cadre d'une consultation globale, quand c'est des appels d'offres, que ce soit international ou régional, qui sont ouverts aux meilleures compétitions. Donc, c'est dans le gré à gré qu'on peut faire ce genre de choses-là. Et je vous dis que c'est dommage, parce qu'en fin de compte, si vous voyez l'accumulation des richesses partout, ça a été fait par les petites, moyennes entreprises et les entreprises familiales, ce qu'on appelle le secteur informel ici. Il aurait suffi de dynamiser ce secteur informel et ce qui serait devenu ce que les Fiat, Ferrari et tout ça sont devenus dans les autres pays. Bon, on ne le fait pas, donc il faut se concentrer sur ça. Mais il faut voir, s'agissant du plan Takal, mais déjà, vous vous rendez compte qu'on importe. Le gros problème, c'est le combustible qu'on importe. Et maintenant, les solutions de ressange qu'on trouve, hein, on va encore ajouter l'importation du charbon. Et justement, toutes ces importations, c'est-à-dire les licences d'exportation, c'est ce qui est, quand on parle d'autosuffisance alimentaire, c'est ce qui empêche l'autosuffisance alimentaire. Les gens préfèrent avoir des licences d'importation de riz, hein, des licences d'importation de produits manufacturés et s'enrichir sur ces licences-là, malheureusement, tu vois, cette forme de corruption ne produit pas d'emploi. Il y a des gens qui s'enrichissent, mais sans produire d'emploi. Et c'est la même logique, c'est la même logique. Et pendant 10 ans, ils sont devenus éminemment riches. Et il paraît que quelqu'un a dit que si on perd les élections, on sera tous en prison. Et tout ça procède de cette logique. Il faut absolument qu'on s'accroche au pouvoir. Après nous, ça doit être le déluge. Et c'est ça qui explique ça. Donc, cette histoire d'accumulation des richesses par les licences d'exportation, ça procède de la corruption. Tous les candidats ont dit qu'ils allaient lutter contre la corruption, mais comment? Et ce sont ces débats en profondeur qu'on doit aborder, que les gens ne sont pas idiots, qu'on regarde. Hein? Alassane Samba Diop dira, je choisis ce candidat parce que c'est lui en fonction de ce qu'il dit. Hein? Demba Moussa Dembélé le dira, Sanoubey le dira. Et ce débat doit avoir lieu. On ne peut pas escompter ce débat. Et il faut qu'il y ait ce débat. Maintenant, en parlant des gens soi-disant de l'opposition, mais qui a été dans l'opposition? Tous ces gens-là ont participé au gouvernement de Wade, là. Hein? Tous, sans exception. Sans exception, sauf les gens du Parti Socialiste. Mais je ne veux pas revenir là-dessus parce qu'Alessandre passe ce que je suis en train de faire. Mais c'est ça qui les bloque. C'est ça qui les bloque. Le dialogue, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous faisiez avec cette personne que vous condamnez? Mais cela ne doit pas empêcher d'ouvrir ce dialogue et, s'il le faut, reporter ces élections. Et c'est la seule possibilité, et cette possibilité doit être l'objectif de toutes ces manifestations. Jusqu'à présent, on n'a pas pu, tout le monde était un peu dans le vague, quoi. On ne savait pas. Maintenant, on doit comme objectif, pas d'élection le 26, le report des élections, et maintenant, en fonction de ce report, avoir des élections libres où les gens vont s'adresser à des gens qui ne sont pas bêtes, des gens intelligents, on fera un choix. Et maintenant, on respectera le choix des électeurs, quel que soit le président qui vient. Au contraire, même le président qui vient, qu'on ait été d'accord avec lui ou pas, on doit tous se lier parce que c'est un travail national, ça demande une mobilisation globale et on doit avoir l'ambition, dans les 10 années à venir, de faire partie de ces pays comme le Ghana qui émerge. Le Ghana fait partie des 12 pays maintenant qui sont les plus développés. Et le développement, la croissance, ça doit être au moins de 7% pour que dans les 10 années à venir, on élimine la pauvreté.
Oui. Devant Moussa Dembélé, par rapport au marché de gré à gré, est-ce que l'urgence évoquée par la CNLEC et les responsables qui gèrent ce secteur-là pour faire de gré à gré, se justifie?
Non, ça ne se justifie pas. Bon, je crois que c'est une façon encore d'enrichir davantage la nouvelle classe que Wade a déjà enrichi.
La bourgeoisie compradore.
La bourgeoisie compradore qui le pousse à s'accrocher au pouvoir à 90 ans en violation de la Constitution. On a le cas de Lanoussi qu'il avait confié à son fils. On a vu le livre de Latif là-dessus. Les chiffres que Latif a donnés, les informations qu'il a données jusqu'à présent, Wade, le petit Wade, n'a pas été capable de donner des explications convaincantes. Avec tous les plumutifs autour de lui, il n'a pas été capable de donner des explications convaincantes sur les chiffres et les révélations qui contenues dans le livre d'Abdelatif Koulibaly. Et on a vu comment des gens qui prenaient des cars rapides se sont retrouvés avec des 4x4 aujourd'hui et des villas qui coûtent 300-400 millions. C'est parce qu'il y avait cette opacité qui permettait de filer des marchés à des amis pourvu qu'ils soient proches du pouvoir. Et je crois que si Ablaye Wade le fait aujourd'hui, c'est encore pour enrichir davantage ou étendre un peu le cercle de ces nouveaux parvenus, n'est-ce pas ?
Des nouveaux riches.
Oui, des nouveaux riches. Et surtout, pour que les gens ne voient pas comment son fils est en train de gérer des secteurs stratégiques dans ce pays-là. Parce qu'aujourd'hui, la réalité et que le fils est presque lui le président, avec tous les départements qui sont sous sa tutelle, et toute la liberté dont il dispose pour faire ce qu'il veut. Et je crois qu'il veut lui donner davantage de liberté pour faire ce qu'il veut, non seulement dans ce secteur, mais dans d'autres. Parce que si on laisse passer cela, mais dans d'autres domaines également, il va lui dire, j'espère que d'ici le 3 avril, ils vont filer. Ça, c'est mon souhait.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, Sanou, si Abdoulaye Wade s'accroche autant au pouvoir, même si lui, il dit que la Constitution lui donne le droit de se représenter, que sa candidature est légitime, est-ce que s'il s'accroche au pouvoir, comme l'a dit Sénabou Wade hier sur ses radios, c'est parce qu'il est devenu isolé, Abdoulaye Wade, qu'il est seul et que les gens l'ont isolé, qu'il n'arrive plus à savoir ce qui se passe réellement dans ce pays?
Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Wade a toujours tout contrôlé. Hein? Je ne suis pas d'accord avec ça. Wade a contrôlé. Wade a son agenda et Wade a une lecture du caractère sénégalais et c'est des gens malléables et corvéables, on peut tout acheter. Il s'est fondé sur la capacité qu'il a d'acheter les chefs religieux là et en disant bon, j'extrapole quoi. Hein? Et il est tellement convaincu de son analyse. Hein, qui ne sait pas que bon, tous les Sénégalais ne sont pas malléables et corroyables et achetables, quoi. Et c'est ça son erreur fondamentale. Et il partira, hein, il va direct au mur, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais ce qu'il faut, c'est que quand il va direct au mur, ça ne se transcrit pas en chaos comme ça a été en Côte d'Ivoire et tout ça.
Vous le disiez tantôt, que Wade est venu avec des gens qui n'avaient pas le prix de carapide il y a 12 ans. Aujourd'hui, ils habitent dans les immeubles, ils sont dans les contrées les plus hippies du monde. Mm-hmm. Est-ce que justement, cette façon d'amener ces gens-là qui n'avaient rien, qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ont eu des richesses, n'est pas un danger justement pour le Sénégal Et ce n'est pas ces gens-là qui s'accrochent au pouvoir, parce que quand ils le perdent, ils peuvent rendre compte.
Ah oui, mais c'est logique, hein. Ils veulent accrocher au pouvoir. Je vous dis, c'était un qui l'a dit, il a essayé de le justifier à la radio. Si on perd le pouvoir, on va tous en prison. Donc, il faut absolument garder ce pouvoir. Et ces gens, je vous dis, c'est une intoxication. C'est l'intoxication globale et c'est les excès. C'est la démesure. Et une démesure d'autant plus grossière que ces gens-là, c'est des nouveaux riches. C'est vraiment des nouveaux riches. Une démesure totalement grossière. Et rappelons la parole de Sophocle. Hein, la démesure est le plus grand crime contre les dieux. Ça s'applique exactement à Watt. Il a perdu tout contrôle avec la réalité. Il faut le ramener avec sa réalité parce que l'homme est fondamentalement mauvais. Hein, il n'a aucun principe. Hein, et demain, s'il voit que sa survie à lui, hein, sa survie est de se défaire, il va se défaire. Donc c'est à nous d'appliquer. Il ne croit qu'au rapport de force, c'est à nous de lui imposer un rapport de force qui dépasse son rapport de force, de lui montrer que nous ne sommes pas tous maillables, contrôlables et achetables, hein, et de le ranger au calendrier.
Mais quel danger peut représenter cela, ces nouveaux riches aujourd'hui qui s'accrochent au pouvoir et qui savent que s'ils le perdent, ils peuvent aussi payer?
Non, moi je crois que d'abord sur le Wade isolé, ça, je crois qu'il ne faut pas insulter les Sénégalais. Parce que Wade, c'est lui qui décide de tout. Tout ce qu'ils font, ça vient de Wade. Vous voyez, Wade, même pour une grève de la Sotrac, de Dakar Demdik, ça se règle au palais. Mais c'est inadmissible. Vous vous rendez compte? Une petite grève, ça se règle au palais. Il n'a pas de ministre, il n'a pas de premier ministre. Parce qu'ils n'osent pas, ces gens n'osent pas prendre des décisions. Ils savent que c'est lui seul qui décide. Donc si cette dame dit que le président est isolé, il n'est pas isolé, au contraire, c'est lui qui donne ces ordres-là. Il sait très bien ce qui se passe dans ce pays.
Donc il est rattrapé dans sa façon de manager le pays.
Exactement. Absolument. Il est rattrapé dans sa façon de manager le pays. Vous voyez? Donc moi je ne crois pas à ces histoires-là, c'est ce qu'il fait. Maintenant, je crois que cette poignée de parvenus va continuer à s'accrocher. Et c'est cette poignée-là qui pousse le vieux à violer la Constitution et à tout faire pour voler les élections dimanche prochain, si toutefois elles ont lieu. Mais le peuple sénégalais aujourd'hui est éveillé. Les jeunes, vous voyez, ils n'ont plus peur des grenades. Vous voyez ce qui se passe depuis 3-4 jours dans les rues de Dakar. Je crois que c'est une répétition générale. Si toutefois cette poignée de parvenus pousse Wade jusqu'à vouloir confisquer le vote des Sénégalais, mais Wade va perdre et eux, ils vont perdre avec lui. Et ils vont rendre compte. De toute façon, ils rendront compte. Le jour viendra où ils seront tous obligés de rendre compte. Si ce n'est pas le prochain président, ce sera celui qui va venir après. Mais un jour, ils rendront compte.
Mais ça nous, aujourd'hui, où va le Sénégal?
Mais écoute, le Sénégal, présentement, c'est un délitement de l'État et c'est un délitement des institutions. Il faut ramener tout ça, récupérer tout ça, et c'est parfaitement possible. Il faut que Wade dégage. Nous ne devons pas nous concentrer pour le moment sur la chasse aux sorcières et tout ça. Pour le moment, l'objectif, c'est de dire qu'il ne se présente pas, qu'il retire sa candidature. Il ne l'a pas fait. On doit faire tout pour empêcher le déroulement correct de ces institutions. C'est 12 000 bureaux de vote. C'est sur le territoire. C'est bien couvert. On l'a vu avec le vote des militaires et des policiers. C'est bien couvert. Les gens sont là. Aussi bien les représentants nationaux des partis que les représentants internationaux, qu'on fasse que... Parce que quoi qu'on fasse, il a fait main basse sur tout. Et il essaiera de faire main basse sur les élections. Et nous sommes là, hein, et pour voir exactement. On dit l'histoire ne se répète pas, mais l'histoire se répète. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On ne veut pas de ça chez nous. Et jusqu'à présent, vous voyez bien qu'on a réussi. On a démontré cette maturité. Il n'y a jamais un mort de moins. 4 morts, c'est déjà 4 morts de trop. Mais quand même, comparativement aux autres pays, le Sénégal a montré la maturité. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue qu'au moins 50% de ces jeunes-là sont indécis. Et pour pouvoir leur permettre de faire un choix judicieux, il faudrait que les leaders et les politiques-là viennent leur proposer les solutions, leur montrer les solutions qu'ils leur proposent.
Mais Moussa Dembélé, est-ce que la solution, c'est comme l'a préconisé Moussa Fagnas, que le chef religieux aille voir Abdoulaye Wade, discute avec lui de la sécurité et du pays?
Oui, c'est une très bonne chose. Mais je ne sais pas si jusqu'à présent ils se sont tus, où ils ont été complices d'Abdoulaye Wade, je ne sais pas si y a un sursaut, je crois, de lucidité de leur part pour aller lui dire la vérité. Regardez les yeux dans les yeux pour dire: président, tu ne peux pas, tu ne dois pas, parce que le pays est à feu et à sang. Togal, Boyna, 12 ans, avec cet âge, tu ne peux pas continuer.
On ne conteste pas son banquier. C'est ce que Hillary Clinton disait. Vous voulez qu'on confronte à la Chine, les États-Unis. Les Chines noirs sont les banquiers des États-Unis. C'est Maraboula, c'est Abdoulaye Wade qui est leur banquier. Ils n'iront pas contester leur banquier. Il faut se rendre. Ils sont déconsidérés.
La plupart économiste et ancien de la Banque africaine de développement et l'auteur du livre L'Afrique sauve l'Afrique, avec Demba Moussa Dembélé, économiste et membre de la société civile du M23. Au micro, Alassane Samba Diop, parti technique Abdoulaye Diop. Bon dimanche à tous. My heart will be broken.